Nouveau drame de l'immigration clandestine au large de la Syrie. 71 personnes au moins sont mortes noyées. Le bateau était parti du Liban. En Iran, les réseaux sociaux bloqués alors que les manifestations de protestation continuent après la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs. En France, le conseiller de Paris Pierre-Yves Bournazel salue le courage des Iraniennes qui manifestent. L'Arabie Saoudite célèbre aujourd'hui sa fête nationale. À l'ONU, le Premier ministre israélien Yair Lapid demande l'usage de la force contre l'Iran si ce pays développe l'arme nucléaire. Enfin, la Première ministre britannique Liz Truss envisage de transférer l'ambassade du Royaume-Uni en Israël à Jérusalem. Il s'agirait d'une violation du droit international, met en garde l'autorité palestinienne. Au moins 71 migrants sont donc morts noyés au large de la Syrie. C'est ce qu'a indiqué le ministre libanais des Transports, Ali Amié. L'embarcation était partie du Liban avec plus de 100 personnes à bord, parmi lesquelles des Palestiniens, des Libanais et des Syriens. Le bateau a fait naufrage au large de la ville de Tartous en Syrie. Le bilan pourrait s'alourdir, selon le ministre libanais. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Un précédent bilan donné cette fois par le gouvernement syrien évoquait 34 morts. En Iran, les autorités ont bloqué l'accès à Instagram et à WhatsApp après 6 jours de protestation suite à la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs. Les manifestations ont fait au moins 17 morts, selon les médias officiels iraniens. L'ONG Human Rights Watch parle d'au moins 31 civils tués par les forces de sécurité. Le président iranien Ebrahim Raisi affirme que la mort de la jeune femme fera l'objet d'une enquête. Le décès de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, a suscité de vives condamnations à travers le monde. Parmi les réactions politiques en France, celle de Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris, coprésident du groupe Indépendants et Progressistes.
Je trouve le peuple iranien particulièrement courageux. Je trouve que ces femmes sont remarquables, au péril de leur vie. Elles manifestent leur envie de voir changer les choses. Elles en ont marre de vivre dans l'injustice, l'oppression, l'obscurantisme. Et nous devons les soutenir. Nous devons soutenir ces femmes qui sont appuyées par des hommes. Il y a de la solidarité dans le peuple iranien. Et je crois qu'il est important que nous puissions les soutenir, les défendre et les aider.
Ces manifestants qui manifestent au péril de leur vie.
Oui, complètement. Aujourd'hui, ces femmes se sont mobilisées pour dire qu'elles avaient envie de vivre leur liberté. Des hommes agissent et les accompagnent dans ces légitimes revendications contre l'obscurantisme, contre l'oppression, contre l'injustice. Et je crois que nous devons les accompagner, les soutenir, parce que leur courage est remarquable. Et je dois dire que j'ai été admiratif de leur engagement et que c'est beaucoup d'émotion même, parce que nous, on parle. Elles agissent. Et nous sommes peu de choses. Et ce qu'elles font est particulièrement important et grand. Et j'espère que cela pourra aboutir, parce que ce qu'elles sont en train de réaliser, c'est historique. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important d'être à leur côté.
Et justement, ce soutien dont vous faites état en tant que conseiller de Paris, comment peut-il se concrétiser?
Je crois que Paris est quand même une grande capitale, exemplaire pour beaucoup de citoyennes et beaucoup de citoyens dans le monde, doit être aux côtés de celles et ceux qui défendent la liberté contre l'oppression, contre l'obscurantisme, contre la haine, contre l'injustice, et que nous devons apporter notre soutien, notre protection à ces femmes qui, en première ligne, défendent la liberté. Et si Paris a une valeur à défendre, c'est bien la liberté. Et je crois que c'est très important, et je veux ajouter que je vois ce peuple iranien très courageux, parce que je vois des femmes et des hommes être ensemble dans la rue, dans les universités, dans les villes, dire très clairement qu'ils ne supportent plus cette oppression, cette injustice, et qu'ils ont envie de vivre leur liberté. Et ça, je crois que c'est essentiel pour l'avenir de l'Iran. On sent que l'histoire est en train de se jouer, et il est important de ne pas regarder ailleurs, d'accompagner et de soutenir par tous les moyens ces femmes et ces hommes pour qu'ils puissent vivre dans un pays libre où le fait de revendiquer sa liberté n'entraîne pas la mort, comme ça a été le cas récemment.
Et justement, la communauté internationale a un rôle à jouer face à cette situation aujourd'hui ?
Oui, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe, on ne peut pas s'accommoder de la violence, de l'injustice qui est exercée contre des femmes qui ont entraîné la mort d'une femme qui a suscité une émotion en Iran et dans le monde entier. Et donc la communauté internationale doit être du côté de ce peuple iranien, de ces femmes et de ces hommes qui se battent pour défendre leur liberté.
Et vous soutenez la tenue de manifestations en France, notamment à Paris, face à cette situation ?
Toutes les initiatives qui pourront amener à réveiller les consciences, à soutenir ces femmes courageuses, exemplaires, un courage qui est un courage physique, qui est un courage psychologique, qui est un courage intellectuel, tout ce qui peut être fait doit être fait. Voilà. Je crois que Paris, les démocraties doivent être aux côtés de celles et ceux qui défendent la liberté au péril de leur vie. Et nous devons les soutenir, les accompagner et prendre toutes les mesures nécessaires pour que leur combat réussisse et qu'elle gagne.
Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris, coprésident du groupe Indépendant et Progressiste, il répondait à François-Xavier de Calonne. C'est aujourd'hui la fête nationale de l'Arabie Saoudite. À cette occasion, la capitale Riyad accueille plusieurs spectacles, dont un conçu par le Cirque du Soleil. Des feux d'artifice sont prévus dans plusieurs villes du royaume, notamment Jeddah. À l'Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre israélien Yair Lapid a appelé la communauté internationale à user de la force si l'Iran développait l'arme nucléaire. Depuis plusieurs mois, Israël tente de convaincre les États-Unis et les principales puissances européennes de ne pas renouveler l'accord sur le programme nucléaire iranien. Et puis Yair Lapid remercie la première ministre britannique Liz Truss qui envisage de déménager l'ambassade de Grande-Bretagne à Jérusalem. Les Palestiniens avertissent qu'une telle décision constituerait une violation flagrante du droit international. L'ancien président américain Donald Trump avait transféré l'ambassade des États-Unis dans la ville sainte. Des crimes de guerre ont été commis en Ukraine, affirment les enquêteurs de l'ONU. Le président de la commission d'enquête, Eric Moz, cite des bombardements russes sur des zones civiles, de nombreuses exécutions, mais aussi des cas de torture et de violences sexuelles. À l'ONU, le premier ministre arménien Nikol Pachinian a accusé l'Azerbaïdjan d'avoir commis des atrocités innommables lors des combats récents entre les deux pays. Il a notamment évoqué des cas de torture ou de mutilation de soldats capturés ou déjà morts. Hier soir, l'émission « Et si on en parlait » sur Radio-Orient était consacrée aux inégalités dans l'accès à la santé en France. Parmi les invités d'Alexis Bachelet, le médecin urgentiste Gérald Kirzek. Il est notamment revenu sur les inégalités constatées lors de la crise sanitaire.
Les inégalités, elles ont frappé durement les plus modestes dans le confinement parce que
C'est pas pareil de vivre son confinement enfermé. D'ailleurs, on risque plus de se contaminer quand vous êtes enfermé à plusieurs dans un appartement que quand vous êtes dans une maison en bord de mer. Donc l'inégalité sociale, elle frappait pendant le confinement. Elle frappait, vous venez de le dire, parce qu'il y avait plus de comorbidité. Mais pourquoi il y avait plus de comorbidité? Pourquoi il y avait plus de surpoids? Pourquoi il y avait plus de maladies cardiovasculaires? Bah, parce que c'est des gens qui étaient un peu exclus du système de santé en amont. Et donc du coup, quand il y a eu cette épidémie, ils ont été frappés plus durement aussi. Mais sur la crise Covid, à force de dire c'est le Covid, c'est ce virus terrible, etc., ce virus, c'est un virus qui frappait les gens les plus fragiles. Donc on aurait dû protéger les plus fragiles, mais surtout, il faut qu'on en tire les conséquences. Mmh. Et moi, il y a deux conséquences qui me semblent à tirer. Et malheureusement, en disant tout vient du Covid et donc c'est une exception, en fait, on ferme les yeux sur ces deux vraies causes des morts du Covid. La première cause, c'est le déficit structurel du système hospitalier, c'est le fait d'avoir fermé des services d'urgence, fermé des lits hospitaliers, fermé des réanimations. Donc on a un système qui est en permanence en flux tendu, qui est extrêmement mal géré et qui fait que la moindre goutte d'eau va faire déborder le vase. Alors le Covid a été une grosse goutte d'eau, mais le Covid n'a fait que révéler des problèmes que nous, urgentistes, et que tous les patients ou tous les collègues connaissent depuis des années, depuis 15 ans, l'hôpital se casse.
Et que vous alertiez depuis déjà longtemps.
Mais regardez 2019, la grève des urgentistes, en disant on veut un rehaussement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire le budget qui est voté par le Parlement, et on répondait « Ah ben non, 3 milliards, on n'a pas d'argent ». Regardez combien a coûté le Covid, ça a coûté plus de 600 milliards. La deuxième cause du Covid, il faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est le déficit de prévention. Parce que c'est une maladie, on voit bien les malades en réanimation, 1 sur 2 étaient obèses. Donc il faut protéger ces patients obèses, ça paraît une évidence, mais surtout il faut lutter contre l'obésité. Aux États-Unis, il y a eu une hécatombe, pourquoi?
C'est un fléau.
Parce qu'il y avait beaucoup de patients qui étaient en surpoids. Et pourquoi en Afrique, à contrario, et heureusement, il ne s'est pas passé grand-chose en termes de mortalité, c'est parce qu'il n'y a pas d'obèses. En revanche, le même phénomène, si on ne prend pas en compte cette prévention, le même Covid ou un autre, hein, ce sera peut-être le Covid 2035, le Covid en Afrique va être meurtrier parce que l'Afrique est en train de souffrir du diabète, du surpoids, etc. Et nous, si on ne maîtrise pas la prévention et si on ne maîtrise pas ce fléau qu'est l'obésité avec des enfants qui commencent à être atteints, en 2035, on aura, si on a le Covid ou un autre agent infectieux,
beaucoup
on aura
plus de dégâts.
Une hécatombe. Donc c'est vraiment un enjeu. Se cacher derrière le Covid, et pour les responsables politiques, alors certes, ça permet de se dédouaner, de ne pas voir la réalité, de se dédouaner des responsabilités du passé, mais ça me semble assez criminel, et donc il faut à tout prix remiser et investir sur la prévention et investir sur le soin. Et si on investit aujourd'hui, ben je vous dis, le trou de la sécu dans 30 ans, il sera largement comblé.
Le médecin urgentiste Gérald Kirsek, il était l'invité de « Et si on en parlait ?» hier soir sur Radio Orient au micro d'Alexis Bachelet. À Paris, les forces de l'ordre ont évacué un campement où vivaient une centaine de mineurs isolés étrangers. Ils étaient installés depuis fin mai, place de la Bastille. La préfecture de police met en avant des problèmes de salubrité publique. Enfin, à Marseille, des perturbations sur le réseau de transport. En raison d'un appel à la grève de la CGT et de Force ouvrière, les syndicats protestent contre le manque d'effectifs. La régie des transports métropolitains précise que les bus et les tramways sont particulièrement touchés par ce mouvement social à Marseille. L'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h sera Lova Rinel, porte-parole de Pluriel, un mouvement fondé par Karim Amelal. Je vous retrouve à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.